Amis auditeurs, nous retrouvons le père Biagio Virgiti, prêtre corse, incardiné à Madagascar et actuellement à la paroisse Bonne Nouvelle à Paris, pour la parole de ce dimanche.
Chers amis de votre radio chrétienne, bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous allons rentrer dans le dimanche des rameaux. Nous allons commencer tout de suite par la proclamation de l'évangile, qui sera une très brève partie de l'évangile de la Passion que vous entendrez ce dimanche. De l'évangile selon saint Marc. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. Tu ne réponds rien. Voici toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers, pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur dit : Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de lui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent « Crucifie-le !» Pilate leur disait « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, le livra. Pour qu'il soit crucifié. Quand arriva la sixième heure, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lema sabachthani !» Ce qui se traduit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà, il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire, en disant « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus poussa un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara « Vraiment, cet homme était fils de Dieu. » De la lecture du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi je ne me suis pas dérobé. Je ne me suis pas révolté. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Le refrain du psaume nous dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ils partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De l'Épître aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La liturgie des rameaux est très importante. Elle vient de la liturgie de Jérusalem, cette procession avec les rameaux Et elle s'est unie progressivement à Rome, à la tradition que nous avions de proclamer la Passion selon saint Matthieu pendant la célébration des rameaux et de la Passion. Et donc ces deux traditions, celle de la procession avec les rameaux, avec les palmes, et celle de la contemplation de la Passion, ont été unies progressivement dans la liturgie romaine, et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Donc nous avons deux temps dans cette cérémonie, célébration. Le temps où justement, après 40 jours, où nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et l'aumône, nous sommes rassemblés au début de la semaine sainte, donc dimanche des rameaux, début de la semaine sainte, pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Donc ce que nous allons célébrer dans ce dimanche, c'est le mystère pascal, c'est-à-dire la passion, mort et résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Christ en Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir, est ressuscité. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Seigneur, suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. C'est le sens du mystère pascal, de suivre Jésus-Christ, de rentrer à sa suite pour avoir part à sa mort et à sa résurrection. Donc c'est un temps très précieux qui nous est donné. Je vous lis l'antienne qui ouvre la messe des rameaux. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection. Donc il y a bien ici toute une pédagogie qu'a l'Église pour que nous imitions le Seigneur. Nous prenions le Seigneur pour modèle dans son abaissement, parce qu'il a voulu montrer au genre humain qu'il était capable de descendre et de nous sauver au plus profond de notre faiblesse. Tout le carême est fondé sur le catéchuménat, c'est-à-dire faire mourir le vieil homme à travers la croix, à travers les souffrances de notre vie que nous acceptons comme une manière, là, l'unique manière qu'a Dieu de crucifier le vieil homme en nous, et comme l'acte d'amour que Dieu fait, parce que la souffrance est une élection que Dieu pose, hein, sur ceux qu'il a choisi pour manifester au monde cette nature de Dieu qui s'abaisse dans la souffrance, et qui, dans la souffrance, comme le buisson ardent, brûle, mais ne se consume pas, souffre, mais ne meurt pas. Ne meurt pas, je parle ici de la mort de l'esprit et non pas la mort physique. Donc il y a toute cette pédagogie qu'a la liturgie de nous faire rentrer dans la passion, dans cet abaissement de Jésus-Christ. La préface nous dit, alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il a détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. Donc Jésus-Christ a voulu nous donner un exemple en mourant pour les coupables, pour les criminels, alors qu'il était innocent. Est-ce que nous qui sommes innocents, nous acceptons de rentrer dans l'épée, de prendre la culpabilité des coupables, le crime des criminels, pour les sauver? C'est la mission du chrétien. C'est ce que cette liturgie des rameaux et de la Passion veut nous aider à prendre conscience pour adhérer à cette vie nouvelle que le Seigneur vient nous donner. La bénédiction solennelle dira: Dieu, votre Père, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Où est-ce que je peux voir l'amour de Dieu? Dans la passion de son Fils, dans la manière dont il est mort pour moi. Qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères jusqu'où va le don de sa grâce. Donc le Seigneur veut nous conduire jusqu'à donner notre vie jusqu'au bout. On entendra le jeudi saint, il aima les siens, il les aima jusqu'au bout. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de cette vie. Quelle vie? La vie éternelle. Pour nous sauver de la mort éternelle. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Donc nous suivons Jésus-Christ dans les épreuves, non pas parce que nous aimons les épreuves, mais parce que c'est le chemin et la route obligatoire pour arriver à la résurrection et à la gloire éternelle. Terminons rapidement en commentant les deux dernières lectures et le psaume. Jésus, Dieu vient accomplir cette nouvelle alliance pour nous dans son Fils Jésus-Christ. Cette alliance, ce contrat, cette union, elle sera différente de celle qu'il a fait avec nos pères en nous faisant sortir de l'Égypte. Parce que cette alliance, nous l'avons rompue avec nos fautes. Pour ça, nous disons avec le psaume, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, que j'arrête de rompre l'alliance avec toi. Mais voici l'alliance que Jésus, Dieu fera avec nous à travers Jésus-Christ. Je mettrai ma loi au fond d'eux-mêmes et je l'inscrirai dans leur cœur. Voilà la réalité nouvelle, l'Esprit Saint, l'homme nouveau que Dieu est en train d'engendrer en nous dans ce temps de carême, en faisant mourir en nous le vieil homme, l'homme de la désobéissance qui a rompu l'alliance avec Dieu. Je l'inscrirai sur les tablettes de leur cœur. Les scribes, au temps de l'Égypte et de la Mésopotamie, avaient une tablette d'argile, comme une tablette d'ordinateur, qui était pendue à leur cou avec une ficelle. Donc ils la prenaient, ils écrivaient dessus, c'était une terre glaise, si vous voulez, ils écrivaient, prenaient des notes dessus, sur cette, et donc elle était sur leur poitrine. Et donc c'était l'image la plus évidente d'une inscription qui était collée au corps d'une personne. Alors, Jérémie prend cette image pour dire, voilà, elle ne va pas être écrite sur une tablette qu'on pose sur le cœur, on va écrire directement sur le cœur. Comme Dieu a écrit de son doigt sur les tables de la loi, il a perforé les tables, l'écriture de Dieu a... Et c'est pas que Dieu a gravé les tables. L'écriture de Dieu, elle a transpercé la pierre. De la même manière, il va inscrire dans notre cœur, de manière indélébile, de manière définitive. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va écrire? Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Moi, je suis à toi, toi, tu es à moi. Comme dit le Cantique des Cantiques. C'est l'alliance matrimoniale que Dieu fait avec chacun d'entre nous. Que nous soyons mariés ou que nous soyons célibataires, le Seigneur fait cette ketouba, cette alliance avec lui. Et donc, quand la loi se rend dans notre cœur, cette loi d'amour, on n'aura plus besoin de s'instruire les uns les autres en disant, voilà, apprends à connaître le Seigneur, ton comportement est mauvais. Non, parce que tous l'auront dans le cœur et tous deviendront une création nouvelle. Les plus petits et les plus grands. Et alors, à ce moment-là, Dieu pourra pardonner complètement nos fautes, nos péchés, parce que sera inscrit dans notre cœur la loi nouvelle. C'est ce que fait le baptême. Et donc le psaume répond à cela. On dit, Seigneur, crée en moi un cœur pur, que j'arrête de rompre cette alliance, que je puisse, moi aussi, avoir un cœur purifié pour que tu écrives cette loi d'amour, où moi je suis à toi et toi tu es à moi. Pour que tu raffermisses au fond de moi et que tu renouvelles ce qui est mon esprit. Alors on peut, avec l'épître aux Hébreux, rentrer dans cette obéissance qui est de Jésus-Christ qui est devenue la cause du salut éternel. Jésus-Christ a obéi et nous sommes sauvés pour toujours grâce à son obéissance. L'obéissance sauve. Donc Jésus-Christ, avec de grands cris, des larmes, des prières, de supplications, il a vraiment insisté, il a fait ce qu'il avait à faire. Il invoquait Dieu qui avait le pouvoir de le sauver. Mais Jésus-Christ n'a pas demandé à être sauvé de la souffrance, mais sauvé de la mort, que ce n'est pas pareil. Et la mort la plus grande, c'est la mort du péché. Le péché que Jésus-Christ a pris sur lui pour le détruire. Et Dieu l'a exaucé, il a été puissant. Et ainsi, le Fils, bien qu'il soit le Fils, tout Fils qu'il était, il a appris à obéir à son papa par les souffrances. Ça veut dire que nous, qui sommes fils de Dieu, par le baptême, Nous sommes appelés à apprendre, nous aussi, à être des fils. À être un fils, ça s'apprend. Ça s'apprend comment ? En obéissant, en faisant la volonté du Père. Et cette volonté du Père nous conduit à la perfection, parce qu'on devient un autre Christ. Et donc, tous ceux qui obéissent à Jésus-Christ, Jésus-Christ a obéi au Père, si nous, on obéit à Jésus-Christ, alors on reçoit le salut. Je voudrais vous commenter brièvement les lectures pour vous montrer comment elles nous font entrer dans la passion. Dans le prophète Isaïe, ce qui est mis en avant, c'est le serviteur souffrant. Ce Jésus-Christ qui n'a pas caché sa face devant les outrages et qui n'a pas été confondu. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé en lui une amertume, une révolte, une rébellion, qui appartiennent aux démons. Non, Jésus-Christ n'a pas résisté au mal. Il est allé jusqu'au bout. Et n'y est pas allé sur ses propres forces. Il y est allé sur la grâce de Dieu. Et c'est important de voir comment le Seigneur vient à son secours. C'est pour ça, même s'il n'est pas atteint par les outrages. Oui, les outrages lui sont faits, mais il n'est pas atteint pour cela. C'est-à-dire que le mal qui lui est fait ne pénètre pas dans le serviteur souffrant, en Jésus-Christ. C'est une voie nouvelle pour la souffrance que Dieu nous offre. Et c'est très important qu'elle puisse se réaliser en nous. Comme je vous disais tout à l'heure, le psaume 21, qu'on retrouvera le vendredi saint, qu'on chantera en entier cette fois-ci, alors que en ce dimanche des rameaux, c'est une partie du psaume qui est pris, rappelle l'abandon de Jésus-Christ sur la croix. Que Dieu n'intervient pas pour sauver son fils de la mort, parce que ce mystère qu'il est en train d'accomplir, Jésus-Christ, est plus grand que la mort physique, que la vie physique. Et donc, il ne le sauve pas de la mort, il n'intervient pas, parce que Dieu va intervenir dans la résurrection. Et ça, c'est très important. Souvent, nous rentrons dans ce mystère en disant, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que nous pensons seulement à cette vie, ou à la vie que nous sommes en train de perdre dans les humiliations, dans les injustices que nous subissons. Dieu fait justice. Dieu relève son serviteur, il ressuscitera Jésus le troisième jour, de manière glorieuse et définitive. C'est pour ça que, si vous voulez, nous pouvons rentrer, nous aussi, sans peur, parce que Dieu permet et n'intervient pas dans la souffrance, parce qu'il veut véritablement nous donner quelque chose de plus et de nouveau, qui est une résurrection de l'esprit. Et donc, vous voyez comment ces lectures nous préparent à rentrer dans la passion glorieuse de notre Seigneur. Et l'épître de Paul continue dans cet abaissement. Il s'est abaissé, c'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il faut que je diminue, dit Saint Jean-Baptiste, et que lui, il grandisse. Ces deux aspects, si vous voulez, de l'humiliation, de la passion et de la glorification. Jésus-Christ, qui justement n'a pas tenu sa condition de Dieu, d'être traité à l'égal de Dieu, il n'a pas gardé jalousement pour lui. Mais il s'est anéanti, il a fait cette kénose, en devenant un esclave. Condition de serviteur veut dire esclave. Semblable aux hommes, reconnu homme, il s'est abaissé, jusqu'à l'obéissance de la mort. L'obéissance à qui ? À son père, qui l'a fait passer par la mort. Mais Dieu est horrible, Dieu est un monstre. Hein, c'est ce que disait Nietzsche. Hein, si Dieu n'intervient pas, Dieu est un monstre. Et donc, si Dieu n'intervient pas, Dieu n'existe pas. Bien, Dieu existe. Dieu a épousé profondément le mystère de la mort, le mystère de l'abandon de la souffrance de l'homme. Et Dieu l'a exalté. Il lui a donné un nom qui surpasse tous les noms. Jésus-Christ est Seigneur, il est Kyrios, il a la victoire sur la mort. Je voudrais, pour commenter l'évangile, vous lire ce que disent la prière de collecte et la préface. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Vraiment, il y a cet exemple d'humilité que Jésus-Christ nous a donné, et donc de vérité de l'homme. Il a pris notre chair jusqu'à la croix, c'est ce que dit l'épître aux Romains, aux Philippiens, pardon, que nous avons à peine proclamé. Et on demande à Dieu de nous donner, d'accueillir le témoignage, le martyr, de sa force dans la souffrance. Ça, c'est le gage de la résurrection. Alors qu'il était innocent, nous dit la préface, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. Jésus-Christ est innocent, il a souffert innocemment, injustement. Le crime le plus grave au niveau judiciaire, du droit, de la justice, c'est de condamner un innocent. Il n'y a pas de chose plus grave que condamner un innocent. Eh bien, Jésus-Christ a accepté de rentrer dans cette gravité. Il a accepté de souffrir pour les coupables que nous sommes. Hein? Lui, il n'a pas commis le mal, nous le l'avons commis. Et il s'est laissé condamner à la place des criminels que nous sommes. Pourquoi faire ? Pour effacer nos fautes et nous donner part à la résurrection des justes. C'est-à-dire nous donner l'esprit nouveau, la vie nouvelle. Alors j'espère que quand vous écouterez ce dimanche la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, vous pourrez vraiment vous laisser habiter, vous laisser dénoncer par cette parole et de voir que Jésus-Christ nous unit à lui, de désirer devenir comme lui. Devenir chrétien veut dire désirer vivre comme Jésus-Christ, être comme Jésus-Christ dans cette génération. Alors je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche des Rameaux, de l'entrée messianique de Jésus-Christ à Jérusalem dans notre vie et dans la passion, hein, que nous puissions être unis les uns aux autres à Jésus-Christ dans la passion pour pouvoir véritablement accomplir notre mission de communauté chrétienne, de chrétiens, de manifester la vie nouvelle. Chers frères et sœurs, je vous souhaite vraiment un très bon dimanche dans le Seigneur, plein de joie de demander que cette réalité s'inscrive au plus profond de nous-mêmes et que nous puissions entendre la voix du Père et être glorifiés avec le Fils dans cette Pâque qui approche. Bonne semaine à tous et à toutes et à la semaine prochaine.
Réjouis-toi, Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers moi. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Louez le Seigneur du haut des cieux. Louez-le tous les unis. Louez-le soleil et lune. Louez-le tous les astres de lune. Réjouis-toi, Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers moi. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Donc,